les podcasts de Radio Courtoisie. Toustraqué, une série d'Emmanuel Darle, l'œil qui ne dort jamais.
Bonjour, bienvenue dans Toustraqué. Dans le premier épisode avec Vincent Pavant, nous avons suivi le passage du panoptique de Michel Foucault aux sociétés de contrôle décrites par Gilles Deleuze. Mais une question restait ouverte. À quoi ressemble la surveillance d'aujourd'hui ? Si je vous demandais combien de fois vous avez été surveillé depuis votre réveil, vous seriez probablement incapable de me répondre. Moi aussi. Et c'est précisément ce qui est intéressant. Pendant très longtemps, surveiller quelqu'un était une opération. Il fallait une cible. Il fallait décider de la suivre, de l'observer, éventuellement d'intercepter ses communications. Cela demandait du temps, des moyens humains, des moyens matériels. La surveillance rencontrait alors une limite très concrète, le coût. Le numérique bouleverse cette logique. Aujourd'hui, la surveillance ne commence plus nécessairement par la décision de surveiller quelqu'un, elle peut commencer beaucoup plus simplement par la production d'une donnée. Et c'est peut-être le premier basculement fondamental de notre époque. La surveillance tend à devenir une infrastructure. Nous ne pensons pas au réseau électrique lorsque nous allumons une lampe. Nous ne pensons pas aux câbles sous-marins lorsque nous envoyons un message à l'autre bout du monde. Nous utilisons simplement un service. La collecte numérique fonctionne souvent de la même manière. Elle est intégrée au fonctionnement ordinaire des outils. Elle accompagne l'action. Elle ne nous interrompt pas. Elle devient presque invisible. Historiquement, la logique pourrait se résumer ainsi. Je m'intéresse à une personne, donc je collecte des informations sur elle. Le numérique rend possible une logique inverse. Je collecte des informations et je verrai ensuite ce qu'elles permettent d'apprendre. Ce renversement paraît subtil. Il change pourtant profondément la nature du problème. Lorsque le stockage devient relativement peu coûteux, que nos activités passent par des infrastructures numériques et que les capacités du calcul deviennent considérables, il devient possible de conserver, d'indexer, de rechercher et de rapprocher des volumes d'informations qu'aucune administration du XXe siècle n'aurait pu traiter manuellement à grande échelle. Et pendant longtemps, cette transformation est restée abstraite pour le grand public. Puis arrive 2013, il s'appelle Edward Snowden, il a 29 ans. Il travaille comme prestataire à la NSA, l'agence américaine chargée notamment du renseignement électronique. Il transmet à plusieurs journalistes des documents classifiés décrivant des programmes de renseignement électronique américains. Des noms apparaissent, Prism, XKScore, mais ce qui est important dans l'affaire Snowden n'est pas de découvrir que les États espionnent. Les États ont toujours espionné. Et le renseignement est évidemment indispensable à leur sécurité. Le véritable choc est ailleurs. Le numérique a changé le coût et l'échelle de la surveillance. Et lorsqu'un changement d'échelle est suffisamment important, il finit par devenir un changement politique. Surveiller une personne avec plusieurs agents pendant plusieurs semaines impose une limite matérielle. Lorsque les informations sont produites, stockées et interrogeables automatiquement, cette limite se déplace. Elle devient juridique, institutionnelle, démocratique. La technologie nous dit « nous pouvons le faire », mais elle ne nous dit pas nous devons le faire, et encore moins, nous avons le droit de le faire. C'est précisément ici que commence le débat démocratique. Qui peut accéder aux informations ? Pour quelle finalité ? Pendant combien de temps ? Avec quel contrôle ? Avec quel recours ? Et surtout, que devient le principe de proportionnalité lorsque la collecte et le traitement changent radicalement d'échelle ? Les révélations de Snowden ont placé ces questions au centre du débat public. Pour apprendre énormément de choses sur quelqu'un, il n'est même pas toujours nécessaire de savoir ce qu'il dit. Il suffit parfois de savoir avec qui il parle. C'est ici qu'arrive une notion essentielle, les métadonnées. Le mot semble technique, l'idée est très simple. Supposons que je sois incapable de lire le contenu de vos conversations. En revanche, je sais que vous avez contacté telle personne, à telle heure, dans tel endroit, pendant telle durée. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais je connais la structure de l'échange. Et cette structure peut être extraordinairement révélatrice. Une personne communique soudain régulièrement avec un service médical spécialisé, puis avec son assureur, puis avec plusieurs membres de la famille. Je n'ai écouté aucune conversation, pourtant je peux déjà formuler des hypothèses. La répétition elle-même produit une information. Nous touchons ici à quelque chose de fondamental. Une donnée ne vaut pas uniquement par ce qu'elle dit, elle vaut aussi par ce qu'elle permet de déduire lorsqu'on la rapproche à d'autres données. Et c'est là que les capacités contemporaines de calcul deviennent décisives. Un être humain ne peut pas examiner des milliards d'événements. Une machine peut rechercher des structures, des régularités, des corrélations, des anomalies. Elle peut identifier ce que certains comportements apparaissent fréquemment ensemble. Elle peut construire des catégories que personne n'avait explicitement définies au départ. La surveillance change alors une deuxième fois de nature. Elle n'est plus seulement une question de regard, elle devient une question de connaissance. Et dans une relation profondément asymétrique, celui qui sait davantage dispose d'un pouvoir supplémentaire sur celui qui sait moins. C'est précisément cette asymétrie qui va devenir centrale dans une autre histoire. Une histoire qui ne commence pas par les services de renseignement, mais dans l'économie. Au moment même où le monde découvrait les capacités de surveillance des États, nous étions en train d'alimenter volontairement une autre gigantesque machine de collecte, celle des plateformes numériques. Lorsque l'État collecte des informations, nous posons spontanément la question du pouvoir. Quelle loi l'autorise? Quel juge contrôle? Quelle garantie existe? Lorsqu'une entreprise collecte des informations afin de nous rendre un service, nous avons longtemps posé beaucoup moins de questions. L'échange semblait simple. Nous recevions un service, après tout. Nous fournissions, en retour, certaines informations. Mais cette représentation est devenue insuffisante. C'est précisément ce que la chercheuse américaine Shushana Zuboff a essayé de conceptualiser avec une expression désormais célèbre, le capitalisme de surveillance. Son analyse est parfois résumée de manière caricaturale. Les plateformes collecteraient nos données pour nous montrer de la publicité. Zuboff dit quelque chose de beaucoup plus profond en réalité. Elle décrit un système économique dans lequel une partie de l'expérience humaine est transformée en matière première informationnelle. Nos comportements produisent des traces. Ces traces deviennent des données. Ces données alimentent des modèles. Et ces modèles permettent de produire ce qu'elle appelle des produits de prédiction. La valeur ne réside donc plus seulement dans la connaissance de ce que vous avez fait, elle réside dans la capacité à estimer ce que vous allez probablement faire. Autrement dit, le marché ne vend plus seulement des biens, il peut aussi vendre une probabilité. La probabilité qu'une personne clique, qu'elle achète, qu'elle reste, qu'elle parte, qu'elle réponde à une sollicitation. Et à partir de là, une nouvelle infrastructure, une nouvelle frontière apparaît. Parce qu'il existe une différence fondamentale entre trois opérations : observer, prédire, influencer. Observer consiste à enregistrer un comportement. Prédire consiste à utiliser un comportement pour estimer ce qu'il pourrait arriver ensuite. Mais lorsque la valeur économique dépend de la qualité de cette prédiction, une troisième possibilité apparaît. Agir sur l'environnement afin de rendre certains comportements plus probables. Et soudain, nous retrouvons Gilles Deleuze, la modulation. Je ne vous oblige pas à regarder un contenu, je le place devant vous. Je ne vous oblige pas à rester. Je construis un environnement qui multiplie les occasions de continuer. Je ne vous empêche pas de produire, de construire, de choisir autre chose. Mais je décide, en partie, de ce qui sera visible au moment où vous devrez choisir. Le problème cesse alors d'être simplement technologique. Il devient, et avant tout, philosophique. Parce que notre liberté formelle demeure. Parce que personne ne nous attache devant un écran. Nous pouvons fermer l'application, refuser une recommandation, choisir autre chose. Mais l'environnement dans lequel cette liberté s'exerce n'est pas nécessairement neutre. Il peut être organisé, personnalisé, optimisé, et parfois optimisé précisément pour produire certains comportements. La question devient donc moins « suis-je libre ?» que « dans quel environnement ma liberté ?» s'exerce-t-elle? Et surtout, qui connaît les mécanismes de cet environnement? Zuboff insiste précisément sur cette asymétrie. Dans un entretien accordé en 2019 à la Harvard Gazette, elle résume brutalement le problème. Ils savent tout sur nous, mais nous savons peu de choses sur eux. Il ne faut évidemment pas comprendre le tout au sens littéral. Aucune plateforme ne sait absolument tout de l'individu. L'intérêt de la formule est ailleurs. Elle désigne une asymétrie de la connaissance. Nous produisons des comportements. D'autres possèdent les infrastructures capables de les transformer en informations. Puis, derrière, en modèle. Puis derrière, en probabilité. Et parfois, nous ignorons jusqu'aux catégories dans lesquelles ces modèles nous ont placés. C'est peut-être même le point le plus important. Parce que l'information la plus déterminante à votre sujet n'est plus nécessairement une information que vous avez donnée. Elle peut être une information que le système a inférée, une probabilité, une catégorie, un score. Et là surgit un nouveau problème, comment corriger une probabilité? Si une administration affirme que vous êtes né en 1975 alors que vous êtes né en 1980, il existe une erreur factuelle. Elle peut être corrigée. Mais si un modèle estime que vous présentez 72% de probabilité d'adopter tel comportement, que signifie exactement cette information est fausse? Si cette estimation sert simplement à choisir une publicité, les conséquences peuvent sembler limitées. Mais dès lors que des logiques comparables interviennent dans l'évaluation d'un risque, la détection d'une fraude, le recrutement ou l'accès même à des services, nous ne sommes plus seulement face à une économie de la donnée. Nous entrons dans une politique de la classification. Et c'est exactement à cet endroit que la surveillance rencontre le calcul. Mais avant même de demander ce que les systèmes déduisent de nous, il faut se souvenir d'une réalité plus élémentaire. Toutes ces données peuvent être stockées quelque part, doivent être stockées quelque part. Et ce stockage crée lui-même du risque. En France, les chiffres de la CNIL donnent une idée de l'ampleur du problème. En 2025, 20 150 plaintes. Un record. Je parle même pas de 2026. Elle a enregistré 17 802 notifications de violation de données personnelles, chiffre exceptionnel notamment en raison de deux incidents ayant généré à eux seuls des milliers de notifications. Une fois cet effet neutralisé pour observer la tendance, la CNIL retient 6 167 violations, soit une progression de 9,5% par rapport à 2024. Environ une violation sur deux relève d'un piratage. Et une quarantaine était susceptible de concerner plus d'un million de personnes. Ces chiffres dépassent largement la seule cybersécurité. Ils nous obligent à sortir d'une opposition trop simple entre liberté et sécurité. Parce que la protection de la vie privée est aussi une question de sécurité. Plus vous possédez d'informations sur une personne, plus vous devez les protéger. Plus vous centralisez, plus vous créez de la valeur. Mais vous créez aussi une cible. Cela devrait nous conduire à renverser la question. Au lieu de demander systématiquement comment protéger toutes les données que nous collectons, nous devrions parfois commencer par demander « avons-nous besoin de les collecter ?» C'est le principe de la minimisation imposé par la RGPD. Derrière ce principe apparaît apparemment technique se cache presque une philosophie. La possibilité de collecter une information n'est pas une raison suffisante pour la collecter. La possibilité de la conserver n'est pas une raison suffisante de la conserver. Et la possibilité de croiser une information n'est pas une raison suffisante pour la croiser. Ce qui est techniquement possible n'est pas forcément, nécessairement, socialement souhaitable. Il serait tentant d'en tirer une conclusion trop simple. Moins de collecte, moins de contrôle, davantage d'anonymat, davantage de liberté, et le problème serait réglé. Sauf qu'il ne le saurait pas. Parce que le numérique ne produit pas seulement une surveillance verticale, celle des institutions et des grandes organisations sur les individus. Il permet aussi une surveillance horizontale. Des individus qui surveillent, observent d'autres individus. Ils les enregistrent, ils les exposent, ils les désignent et parfois organisent leur mise en accusation publique. C'est essentiel si nous voulons être cohérents lorsque nous parlons de liberté numérique. Défendre la liberté sur Internet ne signifie pas idéaliser Internet. J'ai pu récemment observer un cas illustre de cette mécanique. Une personne de mon entourage, une amie proche, reconnue victime de violences conjugales par la justice, a vu circuler sur les réseaux sociaux un montage d'environ 3 minutes de son audition de 14 heures, filmé par une tierce personne. Je ne donnerai bien évidemment aucun nom et je ne commenterai pas ici le fond de ce dossier. La justice, elle, s'en chargera. Ce qui m'intéresse ici, c'est le mécanisme. Un extrait est publié, puis repris, commenté, réinterprété. À chaque relais, le contexte initial peut s'éloigner davantage. Et le numérique possède ici une propriété décisive. Le coût de la reproduction est presque nul. Avant Internet, une personne ordinaire disposait de moyens limités pour diffuser massivement un contenu. Aujourd'hui, une publication peut être copiée et relayée massivement en quelques heures. Et progressivement, la répétition commence à produire une impression de vérité. Pourtant, 1000 personnes répétant une affirmation n'ajoutent pas un seul élément factuel à l'affirmation initiale. Mais socialement, quelque chose change. La visibilité devient une forme d'autorité. Ce qui circule paraît important. Ce qui est beaucoup répété paraît plus crédible. Et ce qui provoque beaucoup de réactions acquiert souvent davantage de visibilité. En bref, Facebook transformé en tribunal. Nous retrouvons alors l'architecture des plateformes. Un algorithme n'a pas besoin de savoir qui a raison. Quel contenu a pu être frauduleusement exploité ou manipulé ? Il lui suffit de mesurer l'engagement, les réactions, les commentaires, les partages, le temps passé. Un contenu qui provoque beaucoup de réactions peut donc devenir beaucoup plus visible, précisément parce qu'il provoque beaucoup de réactions. C'est une boucle sans fin. Et cette boucle peut transformer une accusation locale en phénomène de meute. Voilà pourquoi le cyberharcèlement et ces phénomènes de meute constituent des problèmes réels. Et voilà pourquoi une défense sérieuse des libertés numériques ne peut pas simplement consister à dire « moins de règles, plus d'anonymat et basta ». Non, les victimes existent. Le droit de les protéger aussi. Les auteurs d'infractions doivent pouvoir être identifiés et poursuivis par le cadre prévu par la loi. Mais c'est précisément ici qu'apparaît l'un des dilemmes les plus difficiles de notre époque numérique. Parce que la violence horizontale peut devenir une justification du contrôle vertical. Plus les espaces numériques deviennent violents, plus les demandes de contrôle deviennent politiquement acceptables. Protection des mineurs, cyberharcèlement, fraude, menaces, criminalité, chacun de ces problèmes peut justifier l'intervention. Et certains la nécessitent réellement. Mais une démocratie doit toujours poser une deuxième question. Quelle réponse sommes-nous prêts à construire pour résoudre le problème ? Et à quel prix ? Faut-il identifier l'auteur présumé d'une infraction dans le cadre d'une procédure judiciaire ? Bien sûr. Mais cela implique-t-il de construire une infrastructure rendant chaque citoyen identifiable dans chacun de ses usages numériques ? Pas sûr. Faut-il protéger les mineurs ? Bien sûr, évidemment. Faut-il poursuivre le cyberharcèlement ? Bien sûr. Mais poursuivre les auteurs d'une infraction et organiser l'identification préalable d'une population entière sont deux choses différentes. C'est peut-être ici que se trouve la question politique centrale de cet épisode. Comment empêcher que les abus de liberté ne deviennent le prétexte à la disparition de la liberté elle-même, de nos libertés fondamentales ? La difficulté vient de ce qu'il faut tenir deux idées simultanément. Internet peut être un formidable espace de liberté. Et Internet peut aussi devenir une formidable machine à détruire quelqu'un. Une démocratie doit être capable de protéger, mais elle doit aussi être capable de limiter le pouvoir de ceux auxquels elle confie cette protection. Elle doit poursuivre une infraction tout en garantissant les droits de celui qu'elle poursuit. Mais aussi, elle doit permettre la liberté d'expression tout en sanctionnant les comportements qui franchissent des limites fixées par le droit. Permettre parfois l'identification sans transformer l'identification permanente en condition générale de la vie numérique. Autrement dit, protéger sans surveiller tout le monde. Et cela nous ramène finalement à une phrase que vous avez probablement déjà entendue. Peut-être même, vous l'avez vous-même prononcée. Moi, de toute façon, je n'ai rien à cacher. Cette phrase paraît frappée du bon sens. Pourtant, elle répond à une question qui n'est pas la bonne. La vie privée n'a jamais été uniquement le droit de cacher quelque chose. Elle est aussi le droit de maîtriser le contexte. Je peux raconter quelque chose à mon médecin sans vouloir le raconter à mon employeur, à ma famille, sans vouloir le publier sur Internet, à un avocat, sans vouloir que cette conversation soit connue de mes voisins. L'information est la même. Le contexte pourtant change. Et c'est aussi cela la vie privée, le droit de ne pas être constamment accessible, constamment interprété, constamment évalué, constamment calculé. Le droit de conserver des espaces dans lesquels nous ne sommes pas obligés de produire une version calculable de nous-mêmes. Et c'est probablement ici que le mot « surveillance » devient presque insuffisant. Parce que le problème du XXIe siècle n'est plus seulement qu'un regard puisse être posé sur nous. Le véritable changement est que nos comportements deviennent progressivement lisibles, puis comparables, puis prévisibles, puis influençables. Et lorsqu'une population devient lisible, comparable, influençable, elle peut aussi devenir plus facile à gouverner. Voilà finalement ce que signifie l'œil qui ne dort jamais. Ce n'est pas Big Brother, ce n'est pas une personne assise derrière un immense écran observant chacun de nos gestes. Ce n'est pas une personne assise derrière un immense écran observant chacun de nos gestes. Cette image est devenue trop simple. L'œil contemporain est une architecture, une capacité. La capacité de transformer l'activité humaine en information, puis l'information en connaissance, puis la connaissance en prédiction. Et parfois, la prédiction en intervention. Snowden et Zuboff racontent finalement deux chapitres très différents d'une même transformation. Il ne faut pas les confondre. Les finalités d'un service de renseignement et celles d'une entreprise privée ne sont évidemment pas les mêmes. Leurs pouvoirs ne sont pas les mêmes. Leurs régimes juridiques ne sont pas les mêmes. Mais tous deux évoluent dans un monde où une rupture historique est produite. Jamais il n'avait été aussi facile de produire, de conserver, d'analyser autant d'informations sur autant de personnes. Et de cette capacité naît une nouvelle asymétrie, une asymétrie de connaissance. Or, le pouvoir contemporain ne tient plus seulement à celui qui possède les données, il tient aussi à celui qui possède la capacité d'en tirer un savoir que les autres n'ont pas. Nous avons commencé cet épisode en nous demandant à quoi ressemble la surveillance d'aujourd'hui. Je crois que nous pouvons désormais y répondre. Elle ne ressemble plus nécessairement à quelqu'un qui nous regarde. Elle ressemble parfois à quelque chose de beaucoup plus abstrait, un système qui apprend. Et lorsqu'un système apprend suffisamment sur nous, une nouvelle question apparaît. Que fait-il de cette connaissance ? Est-ce qu'il nous décrit ? Est-ce qu'il nous classe ? Est-ce qu'il nous compare ? Est-ce qu'il prédit nos comportements ? Et surtout, que se passe-t-il lorsque ces prédictions commencent à intervenir sur les décisions qui nous concernent ? Parce qu'à un moment précis, nous franchissons encore une nouvelle frontière. Après l'individu surveillé, apparaît l'individu calculé. Et c'est précisément ce que nous explorerons dans le prochain épisode de Tous Traqués. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.
C'était Tous Traqués, une série d'Emmanuel Darle, l'œil qui ne dort jamais. Les podcasts de Radio Courtoisie. Retrouvez-nous sur podcast.rc.fr et n'oubliez pas de nous soutenir sur soutenir.rc.fr.